RCF.
Bonjour, fidèle auditeur, auditrice de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, avec Agora Défense, dans le cadre du Berry se raconte. Nous retrouvons notre invitée, Françoise Trottignon, membre d'Agora Défense, docteur en préhistoire et membre aussi de la Société archéologique et d'histoire du Berry, pour un second volet consacré à Maurice Bourrelon, préhistorien. Françoise, bonjour.
Bonjour.
Alors, Françoise, ma première question, et je vous laisse beaucoup parler. Pourquoi s'intéresse-t-on à la préhistoire ?
Alors, la préhistoire est une jeune science, puisqu'elle date du milieu du 19e siècle, des premières découvertes, de choses qui surprennent vraiment, et surtout dans des niveaux, par exemple dans les terrasses de la Somme, par Boucher de Perthes, où on voit des choses extrêmement anciennes, avec qui sont des outils façonnés forcément de la main de l'homme, et qui remettent en question les enseignements de la Bible, où avant le déluge, évidemment, il n'y a pas d'espèce humaine, donc les scientifiques sont bien obligés de se poser des questions. Et là, de fait, la jeune science préhistorique va attirer beaucoup d'ecclésiastiques qui vont être fascinés par cette mise en question des enseignements traditionnels de la Bible.
Justement, je crois que le point qui va un petit peu faire friction, même plus que friction, c'est quel est l'impact en 1859 de la théorie de Darwin sur l'évolution, Françoise. Alors là, je crois que...
Alors, la théorie de Darwin, évidemment, bouleverse tout le monde et fait sursauter un certain nombre de têtes chenues des sociétés savantes du monde entier. Puisque quand on parle... de l'homme antédiluvien, c'est quelque chose qui révulse, ça n'existe pas. Mais pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence. Et l'idée que, après les découvertes de l'homme de Néandertal ou certains fossiles humains, parce que les outils c'est une chose, mais les squelettes c'est une autre chose qu'on ne peut pas nier. Alors, l'idée que l'homme descend du singe est absolument choquant pour beaucoup. En Angleterre, ça donne lieu à des querelles absolument incroyables, puisque même l'évêque de Canterbury s'en mêle. Et la presse anglaise titre « On préfère descendre d'un singe que d'un évêque ». Inutile de dire que le scandale est énorme, mais petit à petit, les idées cheminent et surtout que les faits sont têtus et on est bien obligé d'admettre qu'il y a une époque préhistorique qui existe avec des hommes qui n'étaient pas comme nous, qui avaient peut-être le crâne un peu plus volumineux, avec un torus orbitaire, un chignon occipital, une crête sagittale, des tibias en lame de sabre, mais que tout ça faisait quand même, faut pas dire d'excellents français, mais des hommes comme nous, qui fabriquaient des outils et qui vivaient de façon... différentes, des chasseurs-cueilleurs qui poursuivaient le gibier, allaient du nord au sud.
Donc, si je comprends bien, ces idées de Darwin se répandent très vite dans la communauté scientifique mondiale.
Oui. D'ailleurs, il y a les premiers congrès, ce qu'on appelle de l'USPP, c'est le Congrès international de sciences pré- et proto-historiques.
D'accord.
Donc, et en 1906, à Monaco, le capitaine Bourrelon présente ses travaux. Des travaux qui s'appuient sur des fouilles qu'il a faites en Périgord, en particulier à la grotte des Moustiers.
Justement, revenons à notre héros, si j'ose dire. Comment un Maurice Bourrelon va s'intégrer dans ce débat, et qu'est-ce qu'il apporte, lui, à cette science ?
C'est que Maurice Bourrelon s'insère dans le débat dans la mesure où il a pu lire, ce qui était relativement commode à l'époque, toute la littérature qui existe. Les travaux de l'abbé Breuil, les travaux de Gabriel de Mortillet, qui sont après repris par son fils Adrien, et qui classifient de façon, comme tous les mandarins, de façon relativement, enfin qui se voudrait définitive, la chronologie de la succession des différentes phases. Et Maurice Bourrelon voit que ça ne va pas. À l'époque, on n'a pas encore vraiment calé la stratigraphie. Et on sait, par exemple, le moustérien, l'aurignacien, le solutréen, le magdalénien. Tout ça, il faut caler les différentes phases. Et on ne peut les caler qu'en faisant des fouilles stratigraphiques et en notant le matériel qu'on trouve dans chaque couche.
Alors justement, Françoise, à la lecture de votre article, j'ai eu la bizarre impression, mais vous allez me corriger, bien sûr, que tout le monde fait un peu comme il peut, sans véritable méthode. Est-ce que c'est un peu ça ?
Oui, c'est complètement ça, puisque à l'époque, les fouilles sont libres. Vous achetez, surtout en Périgord, où c'était devenu une industrie.
Ah, voilà, c'est ça.
Dans les archives du musée de Bourges, il y a, par exemple, Julien de Saint-Venant, écrit qu'il se fournit auprès d'un instituteur qui achète des qui lui vend des objets. Et puis, il écrit un jour, je n'aurai plus d'objets, la voûte a écrasé mon fournisseur.
C'est devient vraiment une activité économique.
Oui. C'est du business. Le Périgord est très pauvre. Donc, si vous avez des fous parisiens qui veulent vous acheter des bifaces ou des vieux silex, on les leur vend.
D'accord.
Et on fouille qu'en taupe. Donc, les objets, les collections de comparaison, c'est bien, mais faire une fouille stratigraphique en descendant les niveaux les uns après les autres, hein, du haut en bas, et en notant les objets qu'on trouve, c'est encore mieux. Et c'est ça que Maurice Bourlon va faire. Et il s'en va donc aux Aisies, et il va rencontrer Denis Perroni, et il va rencontrer l'abbé Breuil, et il va rencontrer les sommités de la préhistoire nouvelle qui commence à travailler.
Alors justement, on parle de l'abbé Breuil. Et quelles sont les relations entre un Bourlon, un Maurice Bourlon et l'abbé Breuil?
Alors l'abbé Breuil, lui, ce qui l'intéresse, c'est de classifier. D'ailleurs, il écrira en 1912 cet article qu'on nous faisait étudier, les subdivisions du paléolithique supérieur et leur signification. C'est-à-dire qu'on commence au paléolithique supérieur, on va dire l'Aurignacien, le Magdalénien, etc. Donc, il cale. Et l'Aurignacien est pré-solutréen. C'est ça le problème. L'Aurignacien pré-solutréen. Il n'est pas après, il est avant. Et l'abbé Breuil y tient absolument et il manque d'éléments. Et ce sont les fouilles de Bourlon au Moustier qui vont lui apporter la preuve qu'il a raison, que l'Aurignacien est bien pré-solutréen.
Tout à fait.
Et après, ça roule, c'est le Magdalénien.
Ça veut dire que on s'intéresse de manière maintenant scientifique et on essaye de mettre en place une méthode pour véritablement fouiller et pouvoir dater toutes ces époques.
Oui, alors, la méthode qui consiste à fouiller en stratigraphie, bon, on l'a acquise assez tôt.
Oui.
Maintenant, ce qu'on a acquis, et je dirais que dans certains cas, ce n'est pas toujours acquis, c'est de ne pas fouiller seulement en stratigraphie, mais de fouiller aussi en ayant un éventail de surface.
Oui, d'accord. Voyez ?
Parce que si je fais une stratigraphie chez vous et que je tombe au-dessus de la porte, je ne vais pas toujours trouver grand-chose sur un immeuble. Mais si je m'éloigne, si je prends les cuisines, ça va m'être beaucoup plus profitable. C'est un peu la même chose pour un... On ne peut pas considérer que dans un abri sous roche, tous les gens ont toujours habité au même endroit. Et puis, il y a eu, petit à petit, des différentes notions d'habitat où les hommes préhistoriques n'ont pas toujours habité dans des abris sous roche. Il y a aussi des habitats de surface. Et là, il n'y a pas de stratigraphie à avoir puisqu'il y a un seul niveau d'habitat.
Justement, Françoise, où fouille-t-on? Dans des grottes, au hasard, comment?
À l'origine, on a fouillé beaucoup plus dans les abris sous roche, parce qu'on pensait que les hommes préhistoriques, comme il faisait froid, se réfugiaient dans les grottes pour avoir moins froid. En réalité, les hommes préhistoriques n'habitent pas vraiment dans la profondeur des grottes qu'ils fréquentent, peut-être pour faire des peintures préhistoriques, pas partout, hein, ouais. Mais ils habitent sous l'auvent. Même certains exemples montrent qu'ils ont aménagé par des espèces d'empilements de blocs, et là, ils font leur foyer, et ils vivent juste sous l'auvent.
Oui, d'accord. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est les fouilles, c'est un effet du hasard ou c'est véritablement... Comment procède-t-on à des fouilles?
D'abord, on a fait des prospections. On a essayé de trouver des trucs, des signes qui montrent qu'il y avait une occupation. On trouve quelques bouts de silex, quelques os qui vous font voir que là, il y a un site préhistorique. Alors, on dégage, surtout si c'est un abri sous roche qui peut être complètement comblé par l'écroulement de l'auvent, petit à petit. Alors, on dégage, puis après, on finit par avoir une surface archéologique et on descend petit à petit en notant soigneusement les objets.
Alors, justement, lorsque Maurice Bourlon fouille, est-ce qu'il fouille seul ou est-ce qu'il fouille avec d'autres personnes?
On fouille toujours, pas toujours tout seul, mais à l'époque, vous savez, c'était un peu comme des concessions, d'une certaine façon. Par exemple, la grotte appartenait... Monsieur Z, oui. Qui habitait aux Aisies. Alors, j'allais lui louer pour 6 mois, ou pour 1 an, ou pour 2 ans.
Oh, tout à fait. Il n'existait pas encore.
La législation date de 1941.
C'est ça, ce que je vais vous entendre. En France, la législation, en fait, date de 1941. C'est en 1941 qu'il faut, si on veut fouiller, il faut avoir une autorisation.
Voilà.
Alors qu'avant...
On fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut.
Et la France, c'était un des derniers pays européens à avoir mis ça en place. Je crois qu'en Espagne, c'était beaucoup plus tôt le...
Oui.
Espagne et Italie, peut-être aussi.
On a été un peu en retard, mais il faut dire que la France était particulièrement riche en gisements préhistoriques.
Voilà.
Et que c'est quand on pense que, par exemple, dans les Pyrénées, Édouard Piette a déblayé des grottes en faisant construire un Decauville, et qu'il a déblayé en deux ans des grottes préhistoriques où maintenant on mettrait 40 ans à fouiller. Il a fallu peut-être ce gaspillage, ce vandalisme, pour arriver à construire la science préhistorique.
D'accord, je comprends.
On n'y serait peut-être pas arrivé si on n'avait pas eu tellement de matériel. Mais il y a quand même des dégâts regrettables.
Oui, mais l'enthousiasme était quand même là au départ.
Ah oui.
Je pense que c'est une passion.
Mais aujourd'hui encore, je suis extrêmement surprise de voir qu'une Vénus préhistorique trouvée je ne sais où, en faisant des fouilles sous un supermarché, ou une découverte de gravure à tel endroit, suscite l'enthousiasme. C'est quelque chose de magique.
Oui,
préhistoire.
Oui, la préhistoire, mais là, je vais revenir à une période beaucoup plus récente. Bon, par exemple, moi, j'ai souvenir de la découverte, tout au moins, d'avoir entendu du vase de Vix, hein, à manière absolument extraordinaire, hein.
Oui.
Fantastique, hein.
Oui.
Moi, je trouve, hein. Ou ces statues qu'on retrouve, ces petites statues qui font rêver les gens, ouais, qui développent l'imaginaire.
C'est quelque chose qui agit sur notre inconscient, pas collectif mais individuel, qui viennent du fond des temps, qui nous ressortent à la figure.
Oui, tout à fait. Est-ce que vous diriez, Françoise, que Maurice Bourlon était un préhistorien romantique?
Non, c'est pas un préhistorien romantique. C'est un préhistorien qui est, au contraire, qui lutte contre cette espèce de mythe du bon sauvage qui vient de... Hein. Non, c'est un homme qui travaille. Il était fourrier à Cône. Donc
oui.
Lui, c'est une formation militaire. C'est comme ça. On descend une couche, on a tant d'objets qui sont comme ci. On descend, il y a tant d'objets qui sont comme ça. C'est vraiment le début des statistiques. D'ailleurs, on le voit dans ses publications.
Oui.
Nombre de pièces recueillies, 73, 177, 100, 1455. Et il est décrit par couche. Et on voit que ce qu'on trouve au-dessus, c'est pas la même chose que ce qu'on trouve en dessous.
Oui.
Donc, il étaye sa théorie de l'évolution du moustérien qui
oui.
va déboucher sur c'est la fin du passage du paléolithique moyen au paléolithique supérieur.
Il a un petit peu un côté Auguste Comte. Positivisme ? Non ?
Je pense qu'il ne se pose pas de questions, je pourrais dire mystiques.
Oui.
C'est un homme qui reste très... pragmatique. La preuve, c'est qu'il va dans sa carrière aller étudier la technique, ce qu'on appelle maintenant le mode opératoire des fabricants de pierres à fusil à Meun, et il va voir comment ils partent d'un rognon de silex qu'ils vont tailler comme ça, ils vont obtenir des lames comme ci, après ils vont les tailler comme ça pour avoir des pierres à fusil, et c'est ça qui l'intéresse, c'est comment on fait les hommes préhistoriques techniquement.
D'accord.
C'est pas le règne de l'à peu près, il s'intéresse de près aux choses.
Il essaie d'apporter des preuves scientifiques, si j'ose dire.
Voilà.
Tout à fait. Bah, écoutez, Françoise, merci pour ces explications de haut niveau, pour nous faire percevoir la contribution de Maurice Bourlon à la préhistoire moderne. Merci aussi à vous, auditeurs, auditrices, pour votre écoute fidèle à notre émission Le Berry se raconte avec Agora Défense. Et bonne semaine à vous. Merci.